campagne électorale fédérale. Soyons honnêtes, là, qui n'est pas plate. C'est sûr que si, de toute manière, on ne s'intéresse pas aux élections, qu'elles soient fédérales, provinciales, municipales, c'est tout le temps plate. Tu sais, si on ne s'intéresse pas à ça, c'est tout le temps plate. Si on s'y intéresse le moindrement, soyons honnêtes, là, c'est pas pire, cette fois-ci. C'est pas pire, pas pire, pas pire. On va aller parler avec Maxime Blanchette-Jonca, qui est candidat du Bloc québécois dans Rimouski-Neigette, Témiscouata-les-Basques. Il est en ligne. Bonjour à vous. Juste un petit instant. Bon, voilà. Oui, vous êtes là, monsieur?
Oui, je suis bien là.
Bon, parfait. Parfait. Donc, une campagne électorale fédérale qui amène quand même des sujets d'intérêt. Le Bloc québécois, quand même, qui, entre deux élections, a repris du poil de la bête. Puis, je me posais une question ce matin, puis c'est pas la première fois que je me pose cette question-là, mais j'aimerais vous entendre vous prononcer là-dessus, de la même manière que dans une autre vie, Paul Crête s'est déjà prononcé sur cette même question-là que je lui posais. Alors, vous voyez que c'est pas d'hier que je l'ai dans la tête. À savoir, plus le Bloc est performant, plus il interfère à la souveraineté du Québec, ou pas?
Je dirais que non. Le but ultime, évidemment, c'est la souveraineté, c'est d'avoir les pleins pouvoirs. Présentement, on fait notre travail, c'est-à-dire défendre les intérêts du Québec, aller chercher des pouvoirs goutte à goutte, mais on voit que ça porte fruit, puis on l'a démontré, je crois, réellement, dans les derniers 22 derniers mois depuis ce gouvernement minoritaire. Il y a bien des choses qu'on a pu concrétiser. Donc, le cœur de l'indépendance, le cœur de la mission du Bloc québécois n'a pas changé, oui. Les statuts règlements.
Il y a, à mon sens, quand même, une espèce de mutation qui s'est opérée dans l'esprit de bien des gens, je dirais dans la généralité, une espèce de mutation qui s'est opérée, à savoir que la souveraineté du Québec n'est plus à l'avant-plan, à peu près dans n'importe quelle des tranches d'âge, sauf là, à l'endroit de poches d'irréductibles, on va appeler ça comme ça, mais la souveraineté n'étant plus à l'avant-plan, c'est comme si le Bloc québécois, bien qu'il ne soit jamais appelé à prendre le pouvoir, était devenu un parti, ma foi, presque comme les autres.
Donc, quelle est votre question par rapport à ça? Savoir, étant donné le contexte qui a changé à Québec, oui. Savoir si la pertinence du Bloc québécois est de plus en plus mise de l'avant et on va chercher les appuis, est-ce que c'est ça?
Pas tout à fait. Dans le sens où, dans la mouvance populaire, il n'y a plus cette urgence-là de parler de souveraineté et le Bloc québécois, pendant ce temps-là, est en train de s'afficher comme étant un parti qui fait partie des autres partis fédéraux, mais qui, dans le passé, était vu comme une espèce de marginal en se demandant qu'est-ce qu'il fait là, alors que présentement, ma réflexion, la mienne, c'est que le Bloc québécois est en train de s'installer comme étant un parti comme les autres, sinon qu'il a comme particularité de défendre les intérêts du Québec, mais la souveraineté, c'est plus l'avant-plan du Bloc québécois.
Ce que je peux vous répondre à ça, c'est que si on avait parlé d'indépendance dans les derniers mois, on nous aurait, disons, un peu pris de haut en disant que ce n'est pas la priorité. Vous le savez sans doute, on fait face à une pandémie. Ça a été la pandémie dans les derniers mois, dans la dernière année et plus. Donc, la question de l'indépendance, c'est pas de la sorcellerie. Oui. Ça fonctionne pas à coup d'incantation. On peut répéter le mot, le mettre dans notre plateforme. Mais regardez, le meilleur exemple, c'est quand on est le gouvernement du Québec demande des transferts en santé, ça veut dire plus de personnel de soutien, débloquer des blocs opératoires, donc avoir plus de ressources supplémentaires pour nos infirmières. Ouais, ouais. Mais là,
mais donc, donc à ma réflexion ou à mon commentaire, vous répondez que mon analyse est bonne.
L'analyse, c'est qu'on est pragmatique et on se colle à la réalité. Parler d'indépendance en pleine COVID,
ouais, okay.
Pour le moment. C'est toujours le but ultime du Bloc québécois, okay. Et je le répète, dans les statuts et règlements, ça n'a pas changé. On garde nos convictions. Et je peux vous dire, la raison principale de mon engagement politique, c'est la question d'indépendance.
Ouais. Hier, d'ailleurs, c'était intéressant là, pour le peu que j'en ai écouté à Radio-Canada, alors qu'on recevait les chefs. C'était intéressant, et là, je vous amène sur le terrain du Parti libéral de Trudeau. Bon, on le questionnait à savoir, les sommes d'argent qu'on pourrait débloquer, que ce soit en santé ou en éducation. M. Trudeau, est-ce que vous vous engagez à donner cet argent-là sans condition? conditions. Bon, là, naturellement, on est en politique. Oui, bon, mais un. Est-ce que le Bloc québécois, lui, dit non, ce n'est pas de l'ingérence dans les compétences provinciales et oui, le fédéral doit donner de l'argent sans condition. Comment vous faites la part des choses entre de l'ingérence du fédéral dans le provincial et le fait que s'il y a de l'argent qui peut venir, on va le prendre?
Les règles du jeu, M. Saint-Pierre, sont très bien écrites dans la Constitution. Donc, l'entente de départ, le gouvernement fédéral devait payer 50 % des frais de services de santé. Présentement, nous sommes alentours de 20 % Le gouvernement du Québec et l'ensemble des premiers ministres du Canada, donc c'est unanime, demande d'augmenter jusqu'à 35 %. M. Trudeau, lui, veut s'ingérer. Il dit, ah ben non, nous, on veut mettre des normes dans les CHSLD, on veut mettre des conditions. En réalité, il veut seulement avoir sa face sur la photo lors de l'annonce et également son nom sur le chèque. Quand qu'en réalité, on a déjà les normes nationales ici dans nos CHSLD. Ouais. On a l'expertise. Le gouvernement fédéral ne gère pas d'hôpitaux, ne gère pas de médecins. C'est le gouvernement du Québec. Donc, moi, je connais pas réellement ce que le gouvernement fédéral pourrait faire mieux, ce que le gouvernement du Québec fait déjà.
Oui. Donc, ce que vous dites, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà des règles clairement établies par rapport au financement du fédéral dans les soins de santé, si on parle ici des soins de santé. Alors, exact. Vous dites qu'on se contente de nous envoyer ce qu'on nous doit, puis après, on fera ce qu'on veut avec, c'est ça?
Exact. Regardez le meilleur exemple. Dans les garderies, on a déjà un système de garderie depuis plusieurs années. Le gouvernement fédéral, bon, tente encore de se porter un bon père de famille, décide de créer un système de garderie pan-canadien de 30 milliards de dollars. Mais qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher? 6 milliards de dollars au gouvernement du Québec, et ça, sans condition. Mais pourquoi il fait pas la même chose avec les transferts en santé? Ben, c'est une incohérence du gouvernement du Trudeau. Il tente de centraliser, il tente également de légitimer tout son pouvoir d'interaction. Ouais. Et c'est notre argent en bout de ligne. On envoie de l'argent dans un coffre à Ottawa. Quand on en a besoin, on le demande. Et c'est rendu qu'on doit quémander à chaque fois. Et surtout dans une période de crise, on ne comprend pas comment un gouvernement peut pas prioriser la santé en même
temps,
pandémie.
En même temps, quand on voit ce qui s'est passé dans nos CHSLD, avant la pandémie, parce que ça, il faut jamais l'oublier, là, on n'était quand même pas dans le, trèfle au genou avant la pandémie dans nos CHSLD. Quand on voit ce qui s'est passé après, durant la pandémie, faut quand même avouer que de la part de Trudeau, c'est habile.
C'est très habile, mais regardez, un des responsables de ça, c'est certainement en partie le gouvernement fédéral. Il a coupé les transferts en santé dans les dernières années, il y a un déséquilibre qui s'est créé, et là, les gouvernements, pas juste au Québec, partout au Canada, font face à une situation. Ici, en plus, on a un vieillissement de la population, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin des services de santé, et là, on doit prendre des décisions. Ben, OK, bon, oui, l'éducation, la santé, c'est les deux postes budgétaires les plus importants, mais quand l'argent qui devait rentrer initialement, rentre plus au même montant, ben, vous comprenez, on doit prendre des décisions et ça a des impacts sur tout le monde et particulièrement, c'est encore plus criant dans un contexte de pandémie.
Oui. Parlant de pandémie, il est question beaucoup durant cette campagne-ci de taper sur les libéraux à propos de la PCRE, c'est-à-dire de taper sur les libéraux avec la PCRE en disant que ça n'a pas de bon sens, ça brise l'économie, ça fait que des travailleurs... Je vous pose la question, puis vous avez le droit de me répondre, là, je le sais pas, mais je vais trouver la réponse. Est-ce qu'on a en main, présentement, la statistique indiquant, pour le Québec, combien de personnes sont encore sur la PCRE? Je vais, comme on dit, pousser ma chance un peu plus loin. Est-ce qu'on a la statistique à savoir, dans l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, combien de personnes sont encore prestataire de la PCRE. Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Parce que j'ai l'impression que présentement, on brandit ça parce qu'on sait que ça marche, mais dans la réalité, on n'a aucune idée de combien de personnes dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine sont encore prestataires de la PCRE.
Je vais vous répondre. Donc, les chiffres exacts, au Québec, c'est plus de 128 000 Québécois qui sont encore sur l'aide d'urgence. Donc,
on me disait au Canada ce matin...
Non, c'est au Québec, plus de 128 000 Québécois là, qui sont au début du mois d'août. C'est les derniers chiffres qu'on a. Ouais. Ça a été avancé. J'aimerais bien, évidemment, vous donner les chiffres là, dans la région, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Je ne les ai pas sous la main, ça n'a pas été dévoilé. Mais cependant, je vais vous répondre plus précisément encore une fois. On parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Hein. J'ai fait la tournée de ma circonscription la semaine dernière, là, à Rimouski, dans le Témiscouata, dans les Batches. J'ai rencontré des organismes, des entreprises, des gens qui sont reliés au domaine de l'emploi, à l'intégration de l'emploi. La PCRE, c'est un des facteurs. Donc, le problème de la pénurie de main-d'œuvre, c'est multifactoriel. Mais présentement, on entend là, de la bouche des gens. Il y a certaines personnes qui ne sont pas incitées à retourner sur le marché du travail en raison de ce programme-là. Est-ce que ce programme-là est toujours utile pour certaines personnes éventuellement? Mais cependant, le programme a été conçu pour des gens qui avaient perdu leur emploi en raison de la COVID.
Oui,
là,
oui.
Ces gens, il y a certaines personnes qui peuvent reprendre retourner sur le marché du travail, mais ne sont pas incitées à le faire. En réalité, ce programme-là, il doit être suspendu et revu.
Ouais.
C'est-à-dire, les critères doivent changer. Chaque dollar qui est investi doit être fait pour la relance, évidemment, doit être fait de façon efficace. Et ce programme-là n'est plus efficace parce qu'il ne reflète plus la réalité du marché du travail actuellement.
Mais nous-mêmes,
au Bloc québécois, on dit, s'il y a une quatrième vague, ben écoutez, là, on repèsera sur play puis on remettra le programme en place.
Mais j'aimais bien le commentaire de Stéphanie Gendron, qui est collaboratrice dans l'émission tous les matins de la semaine. Vous ne l'avez probablement pas entendu, mais j'ai bien aimé sa réflexion. Quand elle a dit, il faut quand même réaliser que ceux qui présentement sont sur la PCRE et qui pourraient travailler, ils sont des fraudeurs au même titre que quand tu fraudes l'aide sociale ou l'assurance-emploi.
Mais savez-vous, c'est pas des fraudeurs parce que c'est légal. C'est le gouvernement qui a autorisé ce programme-là.
Oui, je comprends, mais à condition que tu puisses pas travailler.
Mais c'est une question de morale dans ce cas-là. Je dirais c'est plus une question de morale, mais effectivement, c'est là que ça démontre vraiment l'incohérence de ce programme-là. On peut retourner au travail, mais on n'est pas incité à le faire. Et là, c'est les entrepreneurs qui me le disent.
Oui.
On se le fait dire ouvertement. Et là, comme vous le savez, M. Trudeau a décidé de faire plaisir à plusieurs personnes en raison d'une campagne électorale précipitée dans une pleine pandémie, a prolongé le programme jusqu'au 23 octobre.
Ça coûte 3
milliards de plus.
Ouais.
Et c'est l'ensemble de nous tous qui vont payer pour ça.
Mais j'aimerais ça quand même, par curiosité personnelle, savoir Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, il y a combien de prestataires de la PCRE? Rien que pour me convaincre que quand on brandit la pancarte de la PCRE en disant « c'est de la faute de la PCRE si je ne suis pas capable de me trouver d'employé », j'aimerais bien savoir combien de personnes ça concerne encore Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Peut-être que si on appelle au fédéral, ils sont capables de nous dire ça, mais souvent, ça va prendre 32 jours, puis on va faire 72 bureaux. Mais la question se pose quand même. M. Blanchet-Joncon, on va se laisser là-dessus. On aura l'occasion de faire une deuxième entrevue de campagne éventuellement. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.